Vous écoutez, on lit pour vous.
Des antidiabétiques réduiraient le risque de démence. Un texte de Pauline Gravel paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir. Deux classes de médicaments qui sont couramment prescrits pour traiter le diabète de type 2 diminuent de façon importante le risque de démence, selon une nouvelle étude de l'Université McGill qui est publiée dans Drug Safety. Cette vaste étude ajoute des preuves solides aux données de plus en plus nombreuses indiquant que les médicaments qui agissent sur l'incrétine, une hormone naturelle qui est sécrétée par notre organisme et parmi lesquels figurent l'Ozempic et le Januvia, auraient en plus un effet protecteur sur le cerveau. Cette découverte est particulièrement intéressante compte tenu du fait que de grandes études ont montré que le diabète de type 2 augmentait le risque de démence d'environ 60%. Les chercheurs ont comparé 95 000 personnes atteintes de diabète de type 2 qui commençaient à recevoir un inhibiteur de la dipeptidylpeptidase 4, DPP4, comme la sitagliptine, Januvia, qui bloque la dégradation des incrétines endogènes à 178 000 patients qui étaient traités avec un antidiabétique de la classe des sulfonylurées, qui ne sont pas connus pour un quelconque effet protecteur contre la démence. Dans une deuxième cohorte, ils ont comparé de la même façon 9 500 diabétiques de type 2 traités avec un agoniste du récepteur du peptide 1 de type glucagon, GLP-1, comme l'Ozempic, qui imite l'action du GLP-1, qui est une incrétine, à 170 000 patients qui prenaient une sulfonylurée. Ce dernier médicament antidiabétique appartient à une classe distincte de la metformine qui est généralement donnée en première intention. Après avoir suivi ces quelque 450 000 patients pendant environ 3 ans, ils ont compté le nombre de personnes qui développaient une démence dans chacun des groupes. Ils ont ainsi constaté que les inhibiteurs de la DPP4 réduisaient de 23% et les agonistes du récepteur du GLP-1 de 25% le risque de développer une démence vasculaire ou Alzheimer par rapport aux patients qui étaient traités par une sulfonylurée. Les résultats sont toutefois plus imprécis pour les cas des agonistes du récepteur du GLP-1, étant donné le moins grand nombre de patients qui recevaient ce médicament, précise la chercheuse principale de l'étude, Christelle Renoux, professeure au département de neurologie et de neurochirurgie de l'Université McGill. Les chercheurs ont constaté que les inhibiteurs de la DPP4 réduisaient de 23% et les agonistes du récepteur du GLP-1 de 25% le risque de développer une démence. Contrairement aux études précédentes, les chercheurs ont pris soin de sélectionner des patients qui étaient au même stade de leur maladie et qui présentaient les mêmes facteurs de risque en matière de poids, de tabagisme et de consommation d'alcool, notamment, ce qui a grandement accru la fiabilité des résultats de la comparaison. Toutes ces informations cliniques provenaient de la base de données Clinical Practice Research Data Link, qui contient les dossiers médicaux anonymisés de patients qui sont suivis par des médecins généralistes au Royaume-Uni. Les résultats de toute étude sérieuse, y compris notre nouvelle étude, qui apporte de nouveaux éléments probants, vont tous dans le sens qu'il y aurait un effet quand même substantiel et prometteur. Nous n'avons toutefois pas mesuré pour l'instant l'effet à très long terme, car nous avons commencé à suivre les patients au moment où ils amorçaient leur traitement et nous les avons suivis en moyenne pendant 2 à 3 ans. Ce qui représente la limite de notre étude et de toutes les études jusqu'à maintenant qui ont effectué un suivi moyen de quelques années, souligne Mme Renoux, qui mène ses recherches à l'Institut Lady Davis à Montréal. Mécanisme d'action. Comment explique-t-on les effets neuroprotecteurs des agonistes du récepteur du GLP-1 et des inhibiteurs de la DPP-4? ces deux classes de médicaments agissent sur les hormones incrétines, plus particulièrement sur le GLP-1, qui est l'une d'elles. Ils accroissent sa présence et sa durée d'action, mais par des mécanismes différents. Le GLP-1 est une petite hormone intestinale qui aide à réguler le taux de sucre dans le sang. Elle stimule la sécrétion d'insuline. Mais elle est également présente dans le cerveau. Des récepteurs à cette hormone sont présents dans plusieurs organes, notamment dans le cerveau. Il y a pas mal d'études qui laissent entendre que cette hormone pourrait avoir un rôle dans certaines fonctions cérébrales et cognitives, en particulier dans l'apprentissage et la mémoire, par exemple. En mimant le GLP-1 ou en inhibant sa dégradation, cela pourrait permettre d'améliorer l'effet bénéfique que cette hormone a sur les fonctions cérébrales, explique Mme Renoux. La chercheuse ajoute que les GLP-1 ont également des effets bénéfiques sur le plan cardiovasculaire, qui pourrait expliquer leur effet protecteur sur le cerveau. On a encore beaucoup à apprendre sur ces médicaments et sur leur rôle. Tous les résultats des études, comme la nôtre, vont probablement inciter les chercheurs en sciences fondamentales à retourner étudier l'action de cette hormone au niveau cellulaire dans le cerveau, poursuit Mme Renoux. Plusieurs études ont montré que le simple fait d'agir sur les facteurs qui augmentent le risque de troubles cognitifs et de démence, comme l'hypertension, le diabète, la sédentarité et le tabagisme, peut diminuer grandement le risque d'apparition de démence. Mais nous aimerions aussi trouver des médicaments qui pourraient être utilisés chez les personnes particulièrement à risque ou même chez celles qui ont un début de démence, par exemple. Nous explorons actuellement la possibilité que des médicaments, comme les homologues du GLP-1, par exemple, puissent ralentir la survenue d'une démence, indique la chercheuse. C'était des antidiabétiques réduirait le risque de démence, un texte de Pauline Gravel paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir.
La baisse de productivité est un mythe, un texte de Nathalie Collard paru le 22 février 2026 dans La Presse. Diane Gabrielle Tremblay est professeure titulaire à l'Université TELUC et titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux sociaux organisationnels de la société du savoir. Cette chercheuse, qui s'intéresse depuis plus de 25 ans au télétravail, est l'autrice de la première recherche d'envergure sur le sujet au Québec. Elle fait le point sur les avantages et les désavantages de cette nouvelle réalité. Les pressions pour ramener les cols blancs dans les bureaux vont à l'encontre du gros bon sens, selon Diane Gabrielle Tremblay. Beaucoup d'employeurs affirment, sans données chiffrées, que le télétravail nuit à la productivité, souligne cette chercheuse émérite. Pourtant, dans des secteurs comme la traduction, le télétravail a été instauré dès ses débuts, précisément pour accroître la productivité, car le calme du domicile permettait d'abattre plus de travail que dans des bureaux bruyants. Dans la fonction publique, le travail professionnel, comme la conception et la révision, est difficile à mesurer. Mais les données disponibles ne montrent aucune baisse globale d'efficacité. Selon des données de Statistique Canada récoltées en 2021, 60% des employés se jugeaient aussi productifs chez eux et 30% se disaient plus productifs. La flexibilité est devenue la demande numéro un des salariés, particulièrement chez les jeunes, souligne Diane Gabrielle Tremblay. La demande est si forte qu'elle pousse certaines organisations à envisager la semaine de 4 jours, car les gains d'efficacité permettent souvent de réduire le temps de travail sans perte de résultats, note la professeure Diane Gabrielle Tremblay. C'est le cas de la firme de jeux vidéo Eidos, entre autres, qui offre à ses employés de concentrer leur semaine de travail s'ils le souhaitent. Un environnement mal adapté. Les fonctionnaires qui retourneront au bureau l'été prochain devront se réhabituer à travailler entourés de leurs collègues. Selon la professeure Diane Gabriel-Tremblay, l'organisation physique de la plupart des espaces de travail risque de nuire à leur productivité. Les employeurs ont multiplié les aires ouvertes qui génèrent d'importantes distractions sonores et visuelles. Vouloir ramener les gens au bureau dans ces conditions sous prétexte de productivité est contradictoire puisque ces environnements nuisent souvent à la capacité de travail soutenu. Le concept de « travail basé sur l'activité » suggère que les tâches de concentration sont bien plus efficaces à domicile. Pour la professeure Diane Gabriel-Tremblay, le modèle hybride de 2 à 3 jours en présentiel représente l'équilibre idéal. Il permet de réserver les journées à domicile pour les tâches solitaires, exigeant de la concentration, et les journées au bureau pour l'innovation collective et les échanges spontanés, précise-t-elle. Au-delà de 5 personnes, les réunions virtuelles perdent souvent en interactivité, ce qui justifie le besoin ponctuel de se retrouver en personne. La résistance au télétravail est plus culturelle que technique, croit Diane Gabriel-Tremblay. La preuve, rappelle-t-elle, quand la pandémie est arrivée, les arguments technologiques invoqués pour refuser le télétravail ont disparu en 24 heures. Elle croit aussi que la résistance vient des gestionnaires qui peinent à s'adapter. Le passage au télétravail a forcé une adaptation des gestionnaires, souligne la chercheuse. Certains peinent encore et préfèrent voir leurs employés, mais d'autres ont réussi à développer une gestion par objectif. Pour cette autrice de nombreux ouvrages sur la conciliation travail-vie personnelle, l'argument du bien-être des employés devrait peser lourd dans la balance. Le gain principal du télétravail réside dans l'élimination du stress lié au déplacement, affirme Diane Gabriel-Tremblay. Ce temps qui est récupéré permet une meilleure hygiène de vie et réduit la fatigue accumulée, surtout pour les parents ou ceux qui dépendent de transports en commun parfois défaillants, observe-t-elle. Les préoccupations sexistes sur les femmes qui feraient leur ménage au lieu de travailler sont infondées. Le temps économisé sur le transport compense largement les petites tâches domestiques. La professeure Diane Gabriel-Tremblay croit qu'il y aura une résistance à ce retour en arrière et que l'avenir du télétravail passera par la négociation. Les syndicats, qui étaient autrefois réticents, sont aujourd'hui très favorables au télétravail pour des raisons de santé et de bien-être, souligne-t-elle. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, offrir cette flexibilité est essentiel pour la responsabilité sociale des entreprises. Cela favorise notamment l'inclusion de personnes en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques en santé mentale. C'était « La baisse de productivité est un mythe », un texte de Nathalie Collard, paru le 22 février 2026 dans la presse.
Iran, antivirus et Radio-Canada. Un texte d'Alain McKenna, paru le 28 janvier 2026 dans la presse. Michel Lemay, un lecteur, demande « Comment un État comme l'Iran peut-il rendre l'Internet inaccessible? » L'Internet, malgré son image de nuage immatériel, repose sur des infrastructures bien physiques et contrôlables. Ne l'oublions jamais. L'idée même de la souveraineté numérique repose sur l'impossibilité par un acteur tiers de vous débrancher du réseau mondial. Pour résumer, Un réseau Internet national est une plomberie géante, reliée au reste du monde par quelques gros tuyaux. Dans des régimes centralisés comme l'Iran, l'État possède ou contrôle strictement les points d'entrée internationaux et les fournisseurs d'accès nationaux. Pour couper l'Internet, le gouvernement n'a pas besoin de pirater quoi que ce soit. Il ordonne simplement aux fournisseurs de fermer la vanne aux frontières. Le gouvernement ne coupe pas tout. Il isole généralement le pays en maintenant un réseau national actif. Les services essentiels, banques, administrations, peuvent fonctionner localement, mais l'accès est bloqué à des sites comme ceux de Google, de Facebook et les sites d'information étrangers qui échappent au contrôle de l'État. Ailleurs, comme au Canada, la tâche serait techniquement beaucoup plus complexe. Les réseaux sont souvent décentralisés et détenus par une multitude d'entreprises privées. Il faudrait une coordination massive et des mesures d'urgence extrêmes pour obtenir un tel résultat. Un gouvernement hostile parviendrait peut-être à bloquer l'accès à certains services étrangers, mais pas à débrancher l'Internet national. Lucie Monti, une lectrice, demande « Est-ce encore nécessaire de se procurer un antivirus pour mon PC Windows, mon iPad et mon téléphone Android ?» Au risque de froisser les revendeurs en ligne de logiciels de sécurité, allons-y d'une réponse courte et simple. Installer un antivirus n'est plus nécessaire pour la grande majorité des utilisateurs. Sur Windows, l'époque où il fallait absolument acheter une suite de sécurité est révolue. Microsoft intègre désormais la sécurité Windows, anciennement Defender. C'est gratuit et déjà installé. C'est performant et surtout beaucoup moins lourd pour votre ordinateur que les antivirus commerciaux qui vont ralentir votre système. Sur iPad, c'est tout simplement inutile. Son logiciel est conçu en vase clos. Un antivirus ne peut pas balayer les autres applications. Votre meilleure protection est de faire régulièrement les mises à jour d'iPadOS. Sur Android, tant que vous téléchargez vos applications exclusivement du Play Store officiel, le risque demeure minime. Bref, gardez votre argent. Le véritable danger n'est plus qu'un virus efface vos données, mais qu'un faux courriel vous subtilise vos mots de passe. Et là, le meilleur antivirus est votre vigilance. Jacques Larivière, un lecteur, demande « Pourquoi Radio-Canada demande de créer un compte pour consulter son site de nouvelles? Cela ne crée-t-il pas de nouveaux risques de fuite de renseignements personnels? » Vous touchez ici au nerf de l'économie numérique. Ce changement de cap n'est pas un caprice, mais une stratégie de concurrence face aux géants comme Google et Meta. Pendant des années, les médias utilisaient des témoins, cookies, pour comprendre leurs lecteurs. Ces outils disparaissent progressivement pour des raisons de confidentialité. Radio-Canada, comme la presse ou le New York Times, a bâti sa propre base de données. En vous identifiant, le site peut mieux comprendre qui vous êtes, vous proposer du contenu pertinent et, oui, valoriser ces espaces publicitaires numériques avec plus de précision. Quant au risque, votre inquiétude est fondée. Toute base de données centralisée peut potentiellement être piratée. Le risque zéro n'existe pas. Toutefois, il faut relativiser la nature du risque. Radio-Canada ne vous demande généralement que des informations de base, courriel, code postal, année de naissance. Contrairement à une fuite chez Desjardins ou à l'hôpital, ces données ont une valeur limitée pour les criminels, car elles ne contiennent pas de renseignements personnels de grande valeur. Pour vous protéger, la règle est simple. N'utilisez jamais pour vos différents comptes en ligne le même mot de passe que celui de votre courriel ou de votre banque. C'était Iran, Antivirus et Radio-Canada, un texte d'Alain McKenna, paru le 28 janvier 2026 dans La Presse.
Québec ajoute des postes de résidence en médecine. Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne, paru le 23 janvier 2026 dans Le Devoir. Québec a annoncé, fin janvier 2026, l'ajout de 24 postes de résidence en médecine pour la prochaine rentrée scolaire, ce qui porte le total à 1008 postes. Même si le nombre de postes augmente, la province peine toutefois à pourvoir tous les postes de résidence en médecine de famille. Ce n'est pas nouveau que le gouvernement augmente davantage les postes en médecine de famille que ce qui est comblé l'année précédente. Pour la Fédération des médecins résidents du Québec, FMRQ, il est difficile de lui reprocher de souhaiter d'en combler davantage chaque année. Pour la prochaine rentrée scolaire, 554 postes seront attribués à la médecine familiale et 454 aux autres spécialités. Cette annonce découle de la table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec, qui est composée de nombreux acteurs, tels que Santé Québec, le ministère de la Santé, les fédérations de médecins, le Collège des médecins et la Conférence des doyens et vice-doyens des facultés de médecine, pour ne nommer que ceux-ci. En réponse à une demande de commentaire de la presse canadienne, le président de la FMRQ, le Dr Louis-Charles Desbiens, a fait savoir que le nombre de nouveaux postes faisait consensus auprès des différents intervenants. Il faut toutefois s'assurer qu'ensuite, ces médecins résidents, à la fin de leur résidence, aient accès à des postes et des conditions de pratique intéressantes, dit-il dans une déclaration écrite. Même si le gouvernement ajoute des postes de résidence, Québec reste la province qui a le plus de difficultés à combler les places qui sont offertes en médecine de famille. Selon les données de 2025 du Service canadien de jumelage des résidents, CARMS, des 94 postes laissés vacants en médecine familiale au Canada, 69 étaient au Québec. Un scénario semblable à 2024, où 75 postes de médecine familiale n'avaient pas été pourvus au pays, dont 70 au Québec. La FMRQ est tout de même optimiste pour l'avenir. Elle explique que le nombre de postes offerts tient compte de plusieurs variables, dont le nombre de finissants au doctorat en médecine et des besoins d'effectifs médicaux dans les différentes régions du Québec. Le Dr Desbiens rappelle que l'an dernier, 484 doctorants ont choisi la médecine de famille comme spécialité de résidence, ce qui représente une hausse de près de 6 % par rapport à l'année précédente. C'est donc dire que parmi la soixantaine de spécialités médicales qui existent au Québec, dont plusieurs d'entre elles sont également en pénurie de médecins, plus de la moitié choisissent la médecine de famille. Cela n'est clairement pas banal, souligne-t-il. Des impacts de la grève? La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a parlé d'une volonté commune dans une déclaration écrite. Cette bonification de 24 postes de résidence en médecine par rapport à celle de l'année dernière est conforme à la volonté de notre gouvernement et de nos partenaires de maintenir un bon ratio de répartition des postes de résidence en médecine. Dans un communiqué, son cabinet a spécifié que la table de concertation a tenu compte des retombées de la grève en enseignement de cet automne qui a pu affecter la diplomation des étudiants en médecine. C'est la raison pour laquelle, cette année, le nombre de postes correspond au nombre de futurs résidents, écrit le cabinet de la ministre de la Santé. La FMRQ a expliqué que le nombre de postes a été évalué en fonction du nombre prévu de finissants qui obtiendront leur diplôme à la fin de cette année académique. Évidemment, il faudra voir ce qui est prévu comme condition de pratique après la fin de leur résidence. Cet élément peut avoir un effet majeur sur l'attractivité auprès de la relève, comme la FMRQ l'a déjà fait valoir à plusieurs reprises, a soulevé le docteur Desbiens. De plus grandes cohortes en médecine. Le gouvernement du Québec a annoncé en 2022 qu'il augmentait les cohortes en médecine partout dans la province. La FMRQ affirme que cette mesure est l'un des bons coups en santé du gouvernement. Avec les hausses d'admission dès 2018, et plus encore avec celles mises en place à compter de 2022, nous commençons à compter chaque année sur un nombre de diplômés du doctorat en médecine plus près des besoins réels. Il faut rappeler que cela prend de 7 à 12 ans pour former un médecin selon la spécialité. Les hausses d'admission prennent donc du temps à faire sentir leur effet, mais nous y arrivons, a précisé le docteur Desbiens. Les cohortes bonifiées sont attendues en 2028. Le docteur Desbiens apporte toutefois un bémol. Maintenant, il faut juste éviter de tuer ses efforts en dévalorisant la pratique de la médecine par des mesures coercitives qui minent l'attractivité, comme celles qui ont été mises de l'avant en 2025 par le ministre Christian Dubé. Il dit espérer que les choses changent avec Mme Bélanger. C'était Québec ajoute des postes de résidence en médecine. Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 23 janvier 2026 dans Le Devoir.